Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07, de retour dans les grandes gueules du sport. Très heureux d'être avec vous. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter en direct, également en podcast. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le premier débat sur le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund. C'était à 9h30. Nous sommes toujours avec Cyril Linette, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Julien Beneteau. La réforme du carton rouge dans quelques instants en rugby, pour ou contre. C'est le bras de fer des GG. 10h30, du tennis dans la punchline des GG avec ce joueur tchèque, Jiří Lečka, qui ne comprend pas l'attitude de Pedro Kachin, qui a demandé le maillot de Nadal après la rencontre. Peut-on être fan de son adversaire? Vous écouterez le joueur tchèque et évidemment vous avez un avis sur cette question. Et puis 11h, c'était une semaine de demi-finale de Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Nous allons parler de l'émotion de cette fin de la règle du but à l'extérieur. Est-ce que cette suppression a tué l'intérêt des matchs aller-retour? Ce sera à 11h. Et là encore, mes GG, vous n'êtes pas d'accord. Mais nous allons débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Raymond Devos, qui a dit un jour, quand les Verts voient rouge, ils votent blanc.
RMC, le bras de fer GG.
On va voir, il met la main à la
aïe,
poche.
Aïe, aïe, aïe.
C'est
la main
le,
à la poche, rouge pour Danty.
Rouge pour Jonathan Danty. Rouge pour Jonathan Danty en début de deuxième mi-temps.
Attention,
ça va valoir un carton rouge. Il n'y a pas d'autre solution. Ça sera un carton rouge pour Sébastien Vahamahina. Malheureusement pour l'équipe de France, il n'y a pas question d'être supporter ou pas. C'est carton rouge.
Il y a déjà un jaune. Bah oui, rouge.
Et ben voilà.
Bien sûr.
Adios. T'es plus invité. William, c'est dehors. On veut plus te voir. C'est terminé. Carton rouge.
Christophe Cessieux va-t-il arrêter d'en vouloir aux joueurs du 15 de France? Dans 5 jours,
n'importe quoi.
Un vote très important aura lieu au Council de World Rugby pour tester ou non l'expérimentation du carton rouge de 20 minutes. Un carton qui viendrait enterrer le carton rouge définitif. En cas de vote favorable, cette innovation pourrait rapidement voir le jour dès le mois de novembre prochain. La France, sachez-le, et vent debout, totalement contre cette réforme. Ça tombe bien, la France n'est pas représentée au Council de World Rugby. Êtes-vous pour ou contre les GG? Dans le coin gauche, la team pour Christophe Cessieux. Et il est tout seul, ça tombe bien, c'est notre seul expert rugby. Dans le coin droit, la team contre Julien Beneteau, Cyril Linette et Pascal Duprat.
Avec des experts rugby aussi.
Un peu aussi, ah,
merci,
c'est vrai, il faut le dire.
Non,
avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, spécialiste rugby, Winnie Claret. Bonjour Winnie.
Salut les grandes gueules, salut tout le monde.
Alors déjà, pourquoi la France est contre?
Alors parce que le carton rouge tel qu'il existe dans le rugby comme dans le foot actuellement est la sanction la plus dissuasive pour éviter le jeu déloyal, le jeu dangereux, les agressions sur le terrain. Ça c'est selon les opposants à ce carton de 20 minutes. Parmi ceux qui alertent, il y a Jean-Marc Lhermé, le vice-président de la Fédération française de rugby en charge des équipes de France. Écoutez.
Pour nous, cette règle est un vrai retour en arrière, notamment sur des dimensions de sécurité, puisque quand même l'effet dissuasif du carton rouge a été fondamental dans l'évolution de certaines attitudes de joueurs, hein, sur des formes de plaquage dangereux, sur le fait d'aller bousculer des joueurs en l'air. Enfin, on a plein d'exemples aujourd'hui qui aujourd'hui sont systématiquement sanctionnés par le carton rouge et qui disparaissent progressivement du paysage rugby.
Alors pourquoi se priver d'une règle qui protège les joueurs? Tout le rugby français, arbitres, joueurs, entraîneurs, ont été sondés par la FFR et visiblement tous s'opposent à ce carton rouge de 20 minutes. Et d'ailleurs, c'est tout l'hémisphère nord qui se dit contre.
Pour rappel, Winnie, on parle de quoi au juste avec ce carton rouge de 20 minutes?
Alors, il s'agit d'exclure définitivement le joueur qui prend le carton rouge, mais permettre à un autre de le remplacer 20 minutes plus tard pour que son équipe ne reste pas à 14 contre 15. Alors pourquoi? Parce que selon les promoteurs de cette nouvelle règle, les nations de l'hémisphère sud, le carton rouge scelle le sort de l'équipe en infériorité numérique. Résultat, le match n'aurait plus d'intérêt, les téléspectateurs changerait de chaîne. Alors la FFR a enquêté. La réponse de Jean-Marc Lhermé.
Les nations de l'hémisphère sud argumentaient sur le fait, en laissant croire que dans 90% du temps, une équipe qui avait un carton rouge avait un match perdu. Et on s'est aperçu au travers des stats qu'on a fait au niveau international et au niveau top 14 que c'était plus près de 60% de défaites suite à un carton rouge que de 90%. Ce qui correspond à quelque chose de très équilibré, parce qu'effectivement, il faut que la sanction soit impactante. Donc, qu'il y ait un effet négatif sur le score final, bah, à la limite, c'est bien, mais pas trop. Pour pas que ce soit systématique et que finalement l'intérêt du match s'en trouve perturbé.
Alors, même si la FFR n'y croit pas, elle est prête à tester ce carton rouge de 20 minutes, comme le font les Nations du Sud depuis 2 ans maintenant. Jeudi prochain, lors de la fameuse réunion dont tu parles, hein, du Conseil de World Rugby, j'y sais, il faudra donc trancher. Est-ce que l'on élargit les tests? Pourquoi pas pour la tournée d'été des Bleus en Argentine? Ou alors, on le met au placard, tout simplement, on n'en parle plus. C'est un bras de fer idéologique qui pourrait bien s'engager.
Merci beaucoup, Winnie. Tu restes avec nous pour ce débat. Êtes-vous pour ou contre ce carton rouge de 20 minutes dans le rugby? Vous le savez, Christophe Cessieu est tout seul. Il est pour, face à Julien Beneteau, Cyril Linette, Pascal Duprat. On vous a posé cette question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Et pour l'instant, le contre l'emporte largement. 77% contre. Christophe, tu es derrière. Tu es tout seul. À l'agonie. Tu peux y aller.
Pascal, je vais sortir les rames. Je vais peut-être sortir les rames. Je n'ai pas un avis définitif sur le truc, mais moi, je préfère qu'on teste les choses avant de dire c'est tout pourri, il faut le jeter. Et j'ai l'impression aujourd'hui que c'est un peu la position de l'équipe de France qui fait procéder à des enquêtes pour savoir si les équipes sanctionnées d'un carton rouge perdent, mais qui ne fait pas d'études pour savoir si le carton rouge a un véritable effet dissuasif. Tu lui as posé la question à Lermé ?
Oui, et il nous dit que c'est très difficile de caractériser. Ah, oui, alors c'est la sécurité sur un terrain. Non, mais c'est vrai
c'est très facile
de. Des fautes accidentelles, parfois des fautes techniques, parfois une agression pure et simple.
Souvent, je discutais quand j'étais plus jeune avec un avocat qui était contre la peine de mort et qui nous disait l'effet dissuasif de la peine de mort n'a jamais été prouvé. Et c'était l'une des raisons pour laquelle sur lesquelles s'est battu Robert Badinter pour abolir cette peine de mort. Je ne dis pas que le carton rouge est l'équivalent de la peine de mort, mais pourtant c'est bien plus grave de se faire couper la tête que de se faire expulser pendant 10 minutes et ça n'avait aucun effet sur la criminalité ou très peu. Donc moi je demande à voir, je voudrais voir en situation ce que donnerait ce carton. Et je reste persuadé qu'un match où un garçon est expulsé dès les premières minutes de la rencontre, eh bien, sanctionne terriblement son équipe. Il n'y a eu une seule finale de Coupe du Monde durant laquelle...
C'est la règle.
Oui, c'est la règle. Mais on va y revenir. Pendant la dernière finale de la Coupe du Monde, les Néo-Zélandais et leur capitaine Sam Kane prennent un carton rouge. Ils ont été toute la rencontre à essayer de compenser cette absence. Ils terminent à un point. Si Kane n'avait pas été expulsé, je pense que la Nouvelle-Zélande aurait gagné la Coupe du Monde. Et
c'est la règle.
C'est la règle, mais c'est le rugby aussi, les gars. C'est le rugby. C'est-à-dire, c'est quoi le but du rugby? C'est de faire tomber ton adversaire, l'empêcher par tous les moyens de franchir la ligne. Dans les règles. Mais c'est peut-être les règles qu'il faut changer. C'est-à-dire demander aux plaqueurs de plaquer aux jambes et de ne plus plaquer en l'air.
C'est un débat. Je suis d'accord avec toi.
Mais justement, équiper comme en football américain les joueurs de protection. Voilà, plutôt que d'assassiner un match.
Tu assassines Messi avec un carton rouge,
un match.
Ok, vas-y Julien.
Non, tu assassines pas un match. Tu prends l'exemple de la dernière finale de la Coupe du Monde, d'accord. Est-ce que c'est la faute du carton rouge que l'ouvreur néo-zélandais loupe la transformation qui aurait permis de passer devant? Non, c'est juste un fait de jeu. Ils auraient très bien pu gagner cette finale.
Ah oui, ils perdent un point, c'est plutôt un contre-exemple,
exactement,
je trouve.
Exactement. Finale du championnat de France du top 14 à Barcelone. Mmh. Racing Toulon.
Maxime Macheneau, parti au quart d'heure de jeu.
Toulon, ils pensaient qu'ils allaient gagner la... Ils font passer Imhoff.
Oui, enfin, il y a exemple et contre-exemple. Moi, je vais te donner le France-Galles en 2011.
En 2011,
ou Warburton. Bah oui, d'accord, mais c'est le point qui fait la différence.
Aujourd'hui, on est obligé de préserver le rugby. Le plus grand danger du rugby à 15, c'est la dangerosité des impacts et l'intégrité physique des joueurs. Si on enlève cette règle, tu parles des effets dissuasifs. Je pense qu'il y a une situation que moi je ne veux pas voir sur un stade et qu'on voit depuis très longtemps, et c'est lié aussi à la vidéo, c'est quand il y a des échauffourées. Du temps de Moscato, ils se mettaient dessus, il y avait des bagarres générales. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la vidéo et qu'ils savent qu'ils vont prendre rouge et qu'ils vont prendre des suspensions. S'il n'y a que 20 minutes, je vais prendre 2 matchs de suspension, il y a un copain qui va me rendre. Ça, c'est un premier truc. Et deuxième chose, aujourd'hui, le rugby, on parle. Oui, on perd. On dit. on a peur que le spectacle soit tué, que l'enjeu sportif. Mais le rugby, le plus grand danger du rugby, c'est pas le manque de spectacle, c'est qu'un jour il y a un vrai
oui, c'est la violence.
Il y a un vrai accident qui arrive sur le terrain parce que il y a eu un geste mal maîtrisé qui n'est plus sanctionné comme il
mais
se doit.
Justement, depuis des années, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions justement pour garantir la sécurité des joueurs. Est-ce que ce carton rouge pour vous, c'est un retour en arrière? C'est ce que nous dit d'ailleurs.
Bah oui, quand même. Enfin, symboliquement, en tout cas, c'est une manière d'exonérer l'auteur potentiel d'une faute dangereuse pour la santé de son adversaire. Moi, j'ai pas de religion. Non. Je n'ai pas de religion complètement avérée sur ce sujet. Mais le sujet de la protection de la santé dans ce sport me semble être le sujet numéro un. Tu avais parlé du ski il y a pas très longtemps dans une émission. Je pense que c'est vrai aussi pour le rugby. On en parle de plus en plus.
Il n'y a que dans le cyclisme, on se fiche complètement de la sécurité.
T'as parlé, pardon, t'avais parlé dans le vélo, effectivement. C'est, et derrière, en plus, t'as été pas entendu, ça s'est concrétisé encore une fois. Donc c'est quand même l'enjeu numéro un, la protection, et c'est le plus grand danger, je pense, qui pèse sur le rugby. Les chiffres tels que vous en débattez, je trouve, sont pas très convaincants, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, à mon avis, il n'y a pas forcément d'argument à aller chercher là-dessus. Il y a un côté quand même collectif très prononcé dans le rugby. Et si la sanction devient plus collective, je trouve que c'est un peu... Pour moi, c'est un peu contre-intuitif par rapport à l'image que je me fais du rugby. Et puis, dernier point, moi, j'en ai ras-le-bol qu'on se farcisse des règles de plus en plus compliquées dans tous les sports. Le rugby est un sport compliqué parce que ses règles d'arbitrage, c'est inhérent à son sport, sont très complexes pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Si en plus, on commence à inventer ce qu'on fait dans beaucoup de sports, des usines à gaz dans tous les sens, moi, honnêtement...
Mais là, en l'occurrence, c'est ça. T'as le bunker, c'est-à-dire que tu prends un carton jaune, le garçon sort du terrain, et pendant 10 minutes, la VAR étudie le site de tout pour savoir si c'est jaune ou si c'est rouge.
Mais ça, c'était bien intégré. Je trouve que ces règles du carton jaune avec l'exclusion temporaire de 10 minutes, puis le carton rouge, à savoir l'effectif, le sous-effectif de l'équipe, je pense que c'était bien, c'était intégré. Le rugby avait je pense, une parade justement à la violence. Efficace. Maintenant, je pose une question. Donc, ça veut dire qu'au rugby, il n'y aura jamais plus la totalité d'un match ou la quasi-totalité d'un match en infériorité numérique, donc, puisque tu prends un rouge et c'est un autre qui te remplace dans 20 minutes.
Or, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ça fait de belles histoires, puisque là, en 5 minutes, vous avez fait appel à votre mémoire.
Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'infériorité numérique intégrale, on va dire. Voilà. À partir du moment où tu as pris un rouge, bien sûr que ça ne change rien pour l'auteur, il sera exclu définitivement du match, mais un de ses coéquipiers va le remplacer au bout de 20 minutes.
Moi, je voudrais instituer un système de tricolore. Trois sanctions différentes. Ouais. Le carton jaune, tu pars 10 minutes.
Les règles.
Le carton orange, ce qui est proposé, et le carton rouge quand la faute est vraiment avérée. Parce que de temps en temps, c'est un peu limite quand même. Hein. Il y a des cartons jaunes. Là, est-ce que ça a touché la tête? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pas volontaire?
Tu vois, ça existera toujours, l'interprétation de l'arbitre.
C'est comme la VAR. Dans ce cas-là, on n'en sortira jamais.
Ça sera toujours un homme qui décidera, même en regardant les images, que ça soit pour un rouge à 20 minutes ou pour un rouge qui t'exclut définitivement.
Sachant que l'homme qui décidera en regardant les images, c'est surtout celui qui lui montrera les images et le réalisateur, la manière dont tu lui montreras,
absolument,
qui influera sa décision. On ne dit jamais Cyril, l'homme ou une femme, la VAR.
Laissons la parole à Christophe, qui s'est noyé là. Vas-y Christophe, t'as deux minutes.
La VAR, dans tous les sens, c'est un pouvoir incroyable donné à celui qui réalise le match par-dessus les joueurs et les arbitres.
Carton orange. Je suis bloqué à mon carton orange. J'attends que le feu passe au vert, mon petit gars. Mais je te dis que ça pourrait être une solution.
Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Cyril, parce que Cyril, toujours un temps d'avance, mais sur la faute, pour l'exposé, c'est ce que tu
toujours
disais.
Cyril.
Et je voulais en venir ici. C'est évidemment, vous le voyez, les différentes règles qui évoluent dans le sport, et évidemment pas au foot, pas au rugby. Est-ce que ça vous chagrine un petit peu? Ou est-ce que, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et se dire, ok, peut-être que les règles d'avant n'étaient pas bonnes, il faut en appliquer de nouvelles.
Mais là, c'est pas le cas quand même au rugby. Non, franchement, c'est formidable ce que World Rugby a réussi à intégrer le carton jaune.
Non, mais le rugby a cette faculté de trouver une dizaine de nouvelles règles tous les ans. Ça, c'est quand même très très fort. Ouais. Et on n'y comprend rien, les joueurs n'y comprennent rien.
Toi, t'en as ajouté une onzième là.
Non, c'est pas une nouvelle règle.
Une
façon de sanctionner ou non. C'est pas une nouvelle règle.
Un chiffre que je vous ai pas donné précédemment, mais qui va un petit peu dans votre sens, messieurs, pour le camp du contre.
Tu peux.
Le delta. c'est-à-dire l'impact qu'un carton rouge a sur le score final d'un match pour l'équipe qui l'a pris, c'est de 4,5 points. C'est-à-dire que si on menait de 10 points, eh ben, ils vont encore mener, mais plus que de 5,5 à la fin du match. En revanche, si on menait de moins de 4,5, eh ben, on va finir par perdre. C'est là où on voit que, certes, ça a un impact, et encore une fois, a priori, c'est normal, mais ça ne renverse pas totalement la table. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui vient enlever l'intérêt, le suspense d'un match.
Ils sont quand même encore 14, les rugbyman.
Quand il y a deux équipes sur le papier qui sont plus ou moins du même niveau, effectivement, l'impact, il n'est pas tant que ça, parce qu'on l'a vu lors de la dernière finale de la Coupe du Monde ou quoi que ce soit. Là où ça a un vrai impact, c'est quand on se dit, on regarde un match de top 14, on se dit, tiens, on va regarder, je dis n'importe quoi, Toulouse-Perpignan ou Perpignan-Toulouse, et bien là, Perpignan prend un rouge. Là, quand il y a là,
on se dit.
Je trouve que ça a accentué.
Mais c'est quoi l'intérêt supérieur du rugby? C'est quoi? C'est la sécurité des joueurs? Ou c'est le fait que ça soit, comment dire, intéressant, spectaculaire?
Oui, mais tu sais dans quel monde on est.
Non, mais le rugby, c'est spectaculaire. Pardon, Jean-Christophe, que tu sois 14 sur le terrain ou 15.
On sait très bien que tous ceux qui mettent des billes aujourd'hui dans le sport cherchent à rendre attractif encore plus ce sport, et notamment pour la jeune génération. Et peut-être, il faut aussi l'entendre, peut-être qu'un match qui est joué au bout de 10 minutes,
ou en tout cas, et des mi-temps de 20 minutes en foot et tout. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais
Pascal,
moi je pense qu'il faut arrêter avec
le jeu à toucher, tu sais, il n'y a plus de plaquage.
Non. Tu sais ce que j'aime? Non, mais je pense que tu vas me sortir une règle où l'équipe qui maîtrise bien les règles, elle a le droit à la mi-temps d'avoir un joueur de plus. 16 contre 15, pourquoi pas? Et pourquoi pas 17 contre 15 si tu as deux matchs en carton rouge?
Parfois, moi je me demande si les gens qui gèrent effectivement les règles dans le sport aiment vraiment le sport en question. Et on en parlera sur les Coupes d'Europe, parce que tout ça, ça fait tellement de belles histoires. Les matchs aller-retour avec des buts qui comptent double, les cartons rouges, vous avez expliqué la finale, le France-Portugal de la Coupe du Monde. Et en gros, on veut effacer tout ça parce que ça n'intéresse plus les jeunes. Non, mais enfin, honnêtement, c'est grotesque en fait. Hein. Le sport, c'est une question de transmission. Exactement. Donc, aux pères d'intéresser leurs enfants et ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça. C'est une question de transmission. On ne va pas passer avant. On pourrait parler de la Coupe Davis. On est en train de
vouloir tout révolutionner.
Voilà, TikTokiser.
Je ne voudrais pas être à la place des petits-enfants de Christophe alors. Hein,
à ce moment-là, moi, je préférais le rugby dans temps
où ça se castagnait,
où ça se castagnait, où tu mettais des coups de pied dans les
Christophe est un vieux con.
Moi, c'est le rugby que je pratiquais à Nice et quand j'allais jouer sur les terrains dans le bar, quoi, tu vois, là c'était bagarre générale dès la deuxième minute, ça envoyait mon pote.
Ça, c'est du sport, bravo. Ok, on va pas forcément justifier la violence des copains, merci beaucoup, même si c'était une autre époque et que tu l'as adoré, Christophe. Juste vous donner, avant d'accueillir Vincent au 32-16 qui veut participer à notre débat, juste vous donner la position de Fabien Galthié. Bon, elle tranche pas forcément, évidemment, avec celle des instances de l'équipe de France. Moi, je suis contre le carton rouge de 20 minutes et je m'étais engagé pour le maintien du carton rouge définitif. Pour moi, il faut que la menace soit là, qu'elle reste forte. Si on va vers une menace intermédiaire, ce ne sera pas bon. Donc, il rejoint, évidemment, vos argumentaires. Vincent, salut Vincent.
Bonjour, GG.
Un habitué de cette émission, Vincent.
Bonjour,
Vincent.
Oh, oui.
Pour ou contre, alors?
Ah, mais totalement contre. Mais en fait, j'ai compris pourquoi Christophe est pour, il vient de le dire, il veut revoir les bagarres générales, les au sol et compagnie. Parce que là, c'est ce qu'il va y avoir. Je vous rassure, les clubs de rugby de l'hémisphère sud, ils sont en train de contacter les Cunemoires, les Moscato et compagnie. Parce que je sais pas si vous avez regardé un peu le super rugby ces derniers temps, les plaquages, ils commencent à redevenir plus que limite avec cette règle de merde. Parce qu'ils l'appliquent, c'est de la connerie, cette règle. Et vous parlez de la dernière Coupe du Monde. Moi, je vous prends un exemple aussi sur la dernière Coupe du Monde. Afrique du Sud, France. On met la règle du carton rouge. Vous pensez que Dupont, il fait 80 minutes? Je vous annonce, Dupont, il est sorti au bout de 5 minutes, le visage éclaté en morceaux. Les Sudaf, ils ont un joueur dehors pendant 20 minutes. Par contre, Dupont, il a la saison terminée. Cette règle, c'est de la connerie. Faut arrêter. J'espère que les Britanniques, ils sont contre également. Parce que là, j'entends Christophe qui va peut-être me dire « Oui, mais les suspensions et compagnie, ça va arriver. » On le sait très bien, les Britanniques, les suspensions, ils les appliquent que quand ils n'ont pas de match important derrière. Et vu que maintenant, dans le rugby, on est en train de nous sortir la tournée mondiale des clubs, la tournée mondiale des équipes nationales, le tournoi destination, le formation, la Coupe du Monde tous les deux ans. Eh ben, il n'y aura plus de suspension, les Britanniques vont plus suspendre. Par contre, quand même, quand il va faire une connerie sur un match international, il va prendre 20 matchs, on ne va pas comprendre. Donc cette règle, il ne faut surtout pas qu'elle passe dans le rugby actuel. Ce serait une énorme connerie et ce serait de la grosse bouse.
Très bien.
C'était l'édito de défaite cuisante de Christophe Lessieux, mais c'est pas grâce à nous.
Ouais, c'est grâce à Vincent. En fait.
Non, mais il pointe quelque chose quand même d'assez intéressant, Vincent. Il y a des sports, on pense au hockey sur glace, où parfois on envoie des mecs, c'est des boulets de canon sur la glace. Ils rentrent, ils sortent, on sait qu'ils vont se faire suspendre.
Mais le ils viennent pour la bagarre. Ils viennent pour la bagarre. Mais ça, c'est du vrai sport. Le rugby, c'est une comédie.
Il y a toujours un moment où ils pètent un plomb dans l'émission. Ça y est, c'est là.
Fracturer l'image par Antoine Dupont à chaque match, oui, peut-être, mais sinon, c'est risqué.
Merci, Vincent.
Vincent d'avoir été avec nous. Et attention au vocabulaire quand même, Vincent, t'es un habitué de cette émission, c'est comme si t'étais une GG, donc voilà, on fait un petit peu gaffe. Sachez tout de même. Mal. Qu'est-ce qu'il y a ?
Ah, rien. Iral.
Sachez tout de même.
Pour une fois.
On l'a perdu. Moi, de mon temps, on insultait les auditeurs.
Il est en forme, il revient de vacances. Attends, à quoi tu t'attendais ?
Sachez que malgré vos moqueries, nous sommes partis à 77 contre, 23 pour. Eh bien, nous sommes désormais à 24 pour, 76% contre.
Victoire, j'ai gagné. Non, en fait, il y a toute sa communauté qui vote.
Christophe qui a voté. Bravo, mon cher Christophe. Et merci, Willy Claret, d'avoir été avec nous ce matin. Le vote merci, de Willy. Cette loi, c'est jeudi prochain. OK. Donc, suivez ça.
Français et Britanniques sont d'accord.
Pas forcément définitif. C'est pour voter pour savoir si on élargit oui ou non les tests pour l'instant. Après, novembre, là, ce sera scellé ou pas scellé.
Bien sûr. Est-ce qu'on teste l'expérience ? C'est ça l'idée du vote de jeudi prochain. Et comme je le disais, la France ne vote pas. Voilà, les comptes, mais elle ne vote pas parce qu'on ne pèse pas assez dans nos instances. On embrasse Bernard Laporte. 10h27, on se retrouve dans quelques instants. La punchline des GG. Peut-on admirer son adversaire ? C'est toute la question. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h31, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec des GG en pleine forme ce matin. Pascal Duprat, Cyril Linette, Christophe Cessieux, Julien Beneteau. Dans 10 minutes, on s'en fout pas. Et notamment, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'en prend, nouveau mot, au gna 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 gna. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou non, si vous avez quelque chose à dire. Mais j'ai beaucoup de choses à vous annoncer.
Les intéressantes, on espère.
Donc, on pourra peut-être passer furtivement sur certaines informations. Merci. Tu as bien raison, mon cher Julien. Alors, c'est une séquence qui a beaucoup fait parler. Lundi, lors du troisième tour du Masters 1000 de Madrid, Pedro Cachin vient de se faire éliminer par Rafael Nadal. Au moment de la poignée de main entre les deux joueurs, l'Argentin glisse à l'Espagnol son idole. Deux points, ouvrez les guillemets. Tu as fait en sorte que mon rêve devienne réalité. Merci, ce n'est pas le protocole, mais est-ce que je peux avoir ton maillot, ta serviette ou autre chose ? Quelques instants plus tard, l'homme au 14 Roland-Garros s'exécutera. Le lendemain, Jiří Lehečka fait tomber Rafael Nadal. En huitième de finale, le Tchèque n'a pas du tout compris l'attitude de Pedro Cachin. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Je suis sur le court pour gagner. Et quand tu viens pour la gagne, c'est difficile de venir demander à mon adversaire de me donner quelque chose. Je ne veux pas paraître irrespectueux, au contraire. Mais si tu joues un match et que tu penses à demander au gars de te donner quelque chose, pourquoi es-tu là ? Pour moi, c'est bizarre. Chacun peut avoir son opinion et je respecte totalement ce que Pedro a fait, mais je n'entre pas dans un match avec ce genre d'intention.
C'est clair, c'est net. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec lui ? Julien Beneteau.
Pas d'accord.
Pascal Duprat.
En partie d'accord.
Cyril Linette.
Pas d'accord.
Christophe Cessieux.
D'accord.
D'accord. Ah, Christophe et Pascal sont pour une fois ensemble. Vous allez bien vous éclater. Pas d'accord. Pourquoi ? Julien Beneteau.
Pas d'accord parce qu'on peut avoir de l'admiration pour une légende de son sport et avoir envie de le battre et tout faire pour le battre. Et c'est pas parce qu'on demande son maillot à la fin d'un match, même si dans le tennis ça se fait pas beaucoup, qu'on n'a pas tout donné sur le terrain pour essayer de battre cet adversaire. Le nombre de matchs au rugby où les Français veulent le maillot des All Blacks, ils ont tout donné sur le terrain pour les battre. Ils ont juste du respect et de l'admiration pour ces légendes du jeu. Pareil au football avec le Brésil, où j'imagine à l'époque tu jouais Cruyff, tu voulais son maillot parce que c'était une icône, mais tu faisais tout pour le battre sur le terrain. C'est pareil au tennis. Il y en a deux ou trois au tennis aujourd'hui qui sont dans ces niveaux-là. Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic. Et un exemple personnel, c'est une des seules choses que j'ai gardées de ma carrière. Quand j'ai joué Federer à Wimbledon, je savais pas que j'allais le faire, que j'allais lui demander. J'ai tout donné sur le terrain. J'ai mené 2-7-0. Je suis passé à 5 fois à 2 points du match pour le battre. J'ai perdu en 5-7. Et à la fin, on était 6 dans les vestiaires avec notre staff respectif. C'est la seule fois où je lui ai dit, tiens, Roger, pour moi, c'était un match spécial. J'ai tout fait pour te battre. Est-ce que tu aurais un des maillots à me donner ? Il me dit, ok, bien sûr, avec plaisir. Il l'a daté, il l'a signé, etc. C'est un souvenir. Mais c'est un respect que j'avais pour lui. Ça ne m'a pas empêché de le battre dans ma carrière. et ça m'a pas empêché de tout donner
et
sur
de les gratigner pour, dans les grandes gueules du sport
pour essayer de le battre. Donc je pense qu'on peut avoir du respect, de l'admiration et quand même avoir envie et pouvoir gagner contre ses adversaires.
C'est un retour d'expérience et c'est évidemment précieux.
Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Mais j'ai l'impression que ça doit se faire dans le cadre d'un vestiaire, entre quatre yeux, entre deux personnes. Tu vois, là, je trouve que sur le court, mais tu as raison, au foot et au rugby ça se fait de moins en moins sur le terrain, davantage dans les vestiaires.
Mais c'est la dernière année de Nadal. C'est quand même particulier.
Il est en tournée d'adieu.
Si ça devenait une habitude au tennis, on pourrait effectivement peut-être s'inquiéter.
Tu penses que c'est la raison
à Madrid. Ah bah oui.
Moi je pense que c'est parce qu'il le kiffe, tout simplement. Je pense que Nadal n'est pas le seul joueur à être kiffé par les autres joueurs.
Ce sont ses tout derniers matchs. Il ne le rencontrera plus.
Moi, je pense qu'il doit le faire dans le vestiaire, pas sur le terrain, parce qu'il y a lui. Il doit se respecter, le joueur. Parce que malgré tout, il ne se respecte pas trop. Je vais te faire un retour d'expérience, peut-être moins cuisant que le tien. Avec Toulouse, un jour, on vient jouer au Parc des Princes, on perd 1-0. Très peu. J'avais pourtant dit aux joueurs, allez pas, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, j'ai envie de vous respecter. Allez pas demander le maillot à Ibra. Bien sûr, il y en a un qui l'a fait. Mais si tu savais, Ibra, comme il a même pas regardé. Il lui a donné son maillot, il a même pas regardé le joueur, il lui a jeté. Je suis rentré dans le vestiaire, je lui ai dit, t'es ridicule.
À la fin du match,
ridicule, parce que t'as même pas respecté.
À la fin du match, parce qu'en foot, parfois, on voit ça avec le PSG, les adversaires, à la mi-temps. Et là,
oui,
là c'est très,
à la mi-temps,
très, très,
oui.
Très, très, très
mais tu vois même des célébrations, c'est pour ça que souvent, maintenant, au niveau international, et lorsqu'il s'agit de compétition où on est en finale, les clubs interdisent à leurs joueurs de changer les maillots ou les sélections, parce qu'il va y avoir le protocole. Tu te retrouves avec en finale de Coupe du Monde, t'es français, tu arrives avec le maillot de ton adversaire sur le podium.
Ce qui a plus déstabilisé qu'à Chine sur ce match-là, pour revenir sur cette situation-là, c'est qu'aujourd'hui, Kachin, il a 29 ans. Donc, Nadal, ça fait combien de temps qu'il joue? Ça fait 20 ans. Il a gagné Roland-Garros en 2005. Donc, Kachin, en fait, quand il avait 11, 12, 13, 14 ans, qu'il était au fin fond de l'Argentine à s'entraîner, il regardait qui? C'était qui son idole? C'était Nadal.
Oui, il y avait des posters de Nadal dans sa chambre.
C'est peut-être plus ça. Que quand il le joue, il se dit oh, est-ce que je peux le battre? Que le fait d'avoir demandé son maillot à la fin, alors effectivement, sur le terrain, bon.
Non mais et les supporters, ceux qui sont venus pour l'encourager, l'Argentin, ceux qui ont fait des bornes, qui ont payé, ils le voient deux secondes après la fin du match où il vient de se faire en plaqué. Et eux, ils sont déçus, et lui, il est en train de demander les maillots.
Et si on va un peu plus loin, parce que là, vous parlez du protocole, et j'entends, mais ne fais pas semblant de ne pas comprendre la question aussi, mon cher Julien, parce que est-ce qu'à un moment donné, ça peut nuire à la performance? Est-ce que dans un sport individuel, quand tu es évidemment face à quelqu'un qui est. Évidemment, tout le monde est fan de Nadal, et on peut le comprendre pour Kachin, mais est-ce qu'à un moment donné, ça peut nuire à ta performance? Il y a des gestes que tu ne tenterais pas forcément.
Ça peut nuire à ta performance. Enfin, ça peut te dire. Il est peut-être en position de gagner ou de conclure le match, de se dire est-ce que je vais être capable de le faire? Ça, oui, ça c'est possible. Mais moi, je pense que c'est. Alors. Ce geste et la symbolique d'avoir de tout ça, de demander son maillot. Mais c'est, je pense, tout l'historique, qu'il grandit avec. Mais il y a plein d'exemples où maintenant, les joueurs ont une admiration, un respect incommensurable pour des légendes. Ils arrivent quand même à les battre.
Mais oui, mais le respect, le golf, c'est une chose.
Tout le monde respecte Woods. Et les joueurs américains.
Oui, mais je pense que quand tu fais une partie avec Woods, t'es totalement déstabilisé. Quand même,
pas
aujourd'hui.
Pas les meilleurs.
Ben, ça, on pourrait débattre.
Non, mais au tennis, c'est pareil.
Oui, mais par exemple, tu me parles de. Et mais tu nous as parlé de ton expérience.
Il n'y aurait plus d'auditeurs. Le problème, c'est.
Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je fais attention et parfois je me freine parce que j'ai très envie d'entrer.
Pas trop de sujets golf. C'est sympa.
Donc ça, il y a le podcast, il y a le practice. Le practice, c'est réalisé tous les lundis. Merci beaucoup pour cette passe décisive. Non, mais tu nous as parlé et merci de ton expérience avec Roger Federer. Est-ce que rétrospectivement, si tu t'intéresses à cette performance, est-ce qu'à un moment donné, si tu as été à deux points de
jamais.
Est-ce que tu l'as pas trop respecté?
Jamais. Pendant ce match-là, jamais. Je l'ai pas trop respecté. J'étais focus. C'est peut-être l'un des matchs où j'étais le plus dedans. Je sais pas pourquoi. Je m'étais inspiré du rugby parce que je l'ai joué à Wimbledon 2012.
Tu lui as envoyé un coup de casque dans les vestiaires, non?
Non. Je l'avais joué à Wimbledon 2012 et la finale de la Coupe du Monde novembre 2011 où ils perdent d'un point. Pour moi, c'était le défi ultime de jouer Federer sur le central de Wimbledon. C'est comme les Français au rugby d'aller jouer les All Blacks et aller à Eden Park en finale de Coupe du Monde. Ils avaient perdu d'un point. Et j'avais dit, ils ont tout fait pour se donner la chance à moi d'élever mes curseurs pour me donner la chance de. Mais jamais j'ai perdu. Parce qu'à un moment donné, je l'ai trop respecté, ou il y avait une petite musique. Non, il a été plus fort que moi dans certains moments.
C'est vrai, mais ça existe dans le sport.
Oui, ça existe.
Tu faisais la comparaison, et forcément, Pascal, avec le foot. Et souvent, j'imagine que tu as forcément dû employer cette expression dans un vestiaire, on n'est pas au parc ou au vélodrome pour prendre des photos.
Bah oui, bah je disais, si votre seule ambition aujourd'hui c'est de changer les maillots, donc c'est pas la peine qu'on joue. Oui, c'est quand même logique en tant que coach. Et tous les yeux écarquillés, le téléphone, les selfies, ils sont à 20 minutes ou 30 minutes de l'échauffement, ils prennent des selfies. Alors chérie, ça va, t'as vu le parc, c'est magnifique. C'est pas la meilleure manière de se préparer pour un match de foot. C'est ce que je ressens.
Bien sûr, mais est-ce que t'avais l'impression que ça pouvait nuire à leur performance sur le terrain?
Fatalement, bien sûr. Fatalement, ça, obligatoirement. Oui. C'est obligatoirement. On a l'impression de jouer contre des surhommes.
Des rockstars.
Voilà.
Mais non, c'est peut-être plus sûr. Vrai dans certains sports collectifs où le PSG aujourd'hui en France qui représente avec leurs stars et les autres clubs n'ont pas autant de stars, ou peut-être en NBA où il y a des stars internationales incroyables et il y a des joueurs des plus jeunes qui vont jouer contre leurs idoles. Et peut-être que dans ces cas-là, oui, ça peut nuire à leur performance de dire tiens, je vais jouer contre Steph Curry, contre LeBron James, j'ai grandi avec lui, c'est lui mon idole de jeunesse. Et là, c'est le rôle de l'entraîneur, de l'entourage, de dire attendez les gars, on n'est pas là en touriste, on n'est pas là. Et moi aussi, quand ton entraîneur, il te prépare, il dit attends, c'est ta place d'aller sur le central de Wimbledon ou d'aller sur tel terrain pour aller jouer Nadal, pour aller jouer Federer. C'est ta place, il faut tout faire pour gagner. On met de côté tout le reste, tout ce qu'il représente.
Je terminerai ce débat par une idole de jeunesse, là. Ce serait qui, là? Vous pourriez perdre vos moyens si vous l'affrontiez, peu importe le sport.
C'était Johan Cruyff pour moi.
Moi aussi, pareil.
Johan Cruyff aussi. Cruyff. Tu choisis du foot.
Ta première idole.
Mmh. Ok, Johan Cruyff.
Cyril. Moi, c'était Michel Platini, donc peut-être je pourrais le battre aujourd'hui, je ne sais pas.
Ah ouais. À la pétanque. On va l'appeler.
À la pétanque.
Julien.
Jordan.
Ah ouais.
C'est pour ça que je t'adore, Julien.
Michael.
Évidemment, Michael Jordan. Ah, évidemment.
Je me levais la nuit pour lui, c'est le seul. Je pense que.
Ah ouais.
Ou Ayrton, on en parlera, mais il n'est plus là.
On en parlera à partir de 11h30 d'ailleurs.
Mais
c'est les seuls pour qui tu te levais la nuit, toi. Il n'y avait pas de nana, non?
J'étais jeune,
j'étais jeune.
On va passer à autre chose, le zapping des GG, on s'en fout pas dans quelques instants, 10h42. Restez bien avec nous. La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'en prend au gna 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 gna. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Et puis on reviendra aussi sur les scènes de violence et le match arrêté lors de la rencontre de Ligue 2 entre Troyes et Valenciennes. Vous me direz si toutes ces informations vous intéressent. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h45 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Cyril Linette, Julien Beneteau. Restez avec nous à partir de 11h. La nostalgie, quelque part, hein, c'était mieux avant, prôné par Christophe Cessieux. La règle du but à l'extérieur, vous le savez, a été supprimée. Cette suppression a-t-elle tué l'intérêt des matchs aller-retour? Nous allons en parler. Donc restez bien avec nous à partir de 11h et composez évidemment le 32-16. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors, des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, chère à Julien Beneteau, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'en prend au gna gna gna. On s'en fout pas. Cyril Linette.
On s'en fout.
Julien Beneteau.
Gna gna gna, on s'en fout.
Ok. On va peut-être pouvoir passer ça. Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Christophe Cessieux.
Non, on s'en fout pas, j'ai un tout petit truc à dire.
Ok, c'est l'un des feuilletons de cette année olympique. Sera-t-il possible de se baigner dans la Seine à partir de cet été, à moins de 3 mois du début des Jeux Olympiques de Paris? Donc Anne Hidalgo est catégorique, oui, se baigner dans le fleuve de la capitale, où il est interdit de piquer une tête depuis 1923 pour des raisons sanitaires, sera bel et bien un héritage des Jeux. Attention, moment gna gna gna.
Je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis que en fait, oui, on va nager dans la Seine parce que on a fait le nécessaire pour que la Seine puisse être baignable et que ça va être vraiment un héritage exceptionnel.
Héritage exceptionnel, et l'opération Un Grand Plongeon dans la Seine va être organisée en juin, quelques semaines avant le début des Jeux Olympiques. Pardonne-moi, tu lèves la main, Julien Beneteau, tu m'as dit on s'en fout, tu n'as pas le droit à la parole, c'est la règle de ce jeu.
Pour pousser un coup de gueule, on est bientôt très proche des Jeux Olympiques, et le pessimisme ambiant, ça me saoule vraiment en France. Voilà, c'est un événement fabuleux qu'on va pouvoir vivre, ceux qui ont la chance d'avoir des places. Voilà, c'est un moment unique, et il y a toujours des pistes froides en fait qui qui font chier, quoi. Pardon de le dire. Voilà, c'est, je suis à l'antenne, j'ai pas le droit. Apparemment, c'est pas bien. Mais j'ai pas d'autres mots, quoi. Voilà, des pisserois.
Je donnerai un petit lexique des synonymes si vous voulez.
Pas dans la Seine hein, non plus, hein. Fais attention. Hein.
Comment ?
Oh, au chaud, faut plus pisser dans la Seine.
Ah, mais j'ai jamais pissé dans la Seine. Je suis très bien. Souvent.
On fait évoluer le débat. Un petit mot à dire. Non, mais
c'est,
Christophe.
Des, là, y a, c'est très en vogue, là, ces petits onomatopées. Le gna 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 de Madame le maire de Paris. Il y avait le dja 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 de Amélie Oudéa Castéra. Je sais pas, c'est peut-être une façon de gagner des points. Je pense, bon, effectivement, qu'elle a pas. Elle n'a pas tort et que moi aussi je commence à en avoir assez de toutes ces critiques et ces avertissements. Mais j'ai quand même hâte de voir Madame Hidalgo se jeter à l'eau avec sa bouée canard autour de la taille en tenant la main du président de la République pour faire un grand plouf dans la Seine. Ça, j'ai quand même hâte de voir cette image. Hein, ça peut être sympa.
Et ressortir en crocodile. J'ai toujours pas le droit de. Non, toujours pas. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, scène de violence et match arrêté lors de 3 Valenciennes. On s'en fout pas. Cyril Linette.
Ah, on s'en fout pas.
Julien Benneteau.
Ah, on s'en fout pas.
Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Lors de la rencontre de la 36e journée de Ligue 2 entre Troyes et Valenciennes, eh bien, cette rencontre a été interrompue, puis définitivement arrêtée en raison de jets de fumigène de la part des supporters de l'Estac. Je vous resitue le contexte. Troyes est tout proche d'une relégation en national, et alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul qui n'arrangeait personne, le match a dérapé, une scène assez surréaliste où les joueurs eux-mêmes sont intervenus pour renvoyer les fumigènes dans les tribunes. L'arbitre de cette rencontre, Olivier Tual, a arrêté une première fois le match, qui a repris après une quinzaine de minutes d'interruption. Mais une nouvelle fois, une nouvelle série d'envois de fumigène sur le gardien de Valenciennes l'a poussé à arrêter définitivement cette partie. Les forces de l'ordre sont descendues sur la pelouse pour s'intercaler entre les joueurs et une partie des supporters. D'ailleurs, un supporter de Troyes était hier dans l'after, on l'écoute.
C'est un ras-le-bol général. Alors, je cautionne pas du tout ce qui s'est passé, bien évidemment. Il y avait des gamins en pleurs, pas très loin de moi. C'était assez dramatique comme scène. Enfin, c'est la première fois que je vois ça au stade de l'Aube. C'est dire à quel point le club est en train de couler. Il y a deux joueurs qui ont renvoyé les fumigènes parce que eux étaient en colère. Je pense qu'ils ont aussi la frustration de voir les résultats de l'équipe, de voir même les joueurs qui répondent. Je me suis dit que là, on avait vraiment touché le fond du fond.
Et très vraisemblablement, Troyes va être condamné à la relégation, va être relégué en national à 2 journées de la fin, surtout si Troyes perd ce match sur tapis vert. Cyril Linette.
Dans cette émission, je défends toujours l'ADN du sport, l'ADN du foot. Parmi l'ADN, il y a les supporters, il y a les ultras. Mais quand même, j'ai envie de dire, et de manière assez claire, il y en a un peu ras-le-bol, en fait, qu'à chaque fois qu'un club est relégué, ça finisse comme ça, par un pugilat général sur le terrain. On l'a vu l'an dernier avec Saint-Etienne, évidemment, avec des incidents dramatiques. Bordeaux, Rodez, c'est pas un club relégué, mais c'est Bordeaux qui remonte pas, et du coup, on s'en prend buteur de Rodez. À un moment donné, le sport, il y a une équipe, il y a un adversaire, on peut perdre. Il y a plein de choses à dire sur la destinée du club de Troyes, City Group, Manchester City, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas supporter, tolérer plus longtemps qu'à chaque fois qu'un club est relégué, le match ne puisse pas aller à son terme. Les gens qui vont au stade ne sont pas tous des supporters, ne sont pas tous des ultras. Il y a aussi des familles qui viennent passer un bon moment, un moment de divertissement pour qui le résultat est embêtant mais n'est pas non plus un drame national et qui ne peuvent pas comprendre de se retrouver dans cette situation. Il faut cesser, même si je les défends souvent, que les franges les plus radicales des clubs s'accaparent en fait à 100% la destinée et l'atmosphère d'un club.
Et deux fois, tu as eu deux fois cette expérience récemment, Pascal, avec Saint-Etienne, lors du match face à la JOCR où il y a eu un envahissement de terrain alors que la rencontre se déroulait à huis clos, et puis avec Dijon également au Havre.
Oui, et à Saint-Etienne, alors que plusieurs matchs décisifs à domicile, on les a joués à huis clos parce que les supporters, bien sûr, avaient balancé des fumigènes et les tribunes étaient interdites. La série de pénaltys contre Auxerre, tribune vide derrière. Donc tout ça, ça a aussi un impact. Non, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de supporters. Et donc si je parle des Verts, les supporters sont exceptionnels dans la majeure partie des cas à Saint-Etienne. Mais il faut aussi que dans leur lexique du parfait supporter, ils comprennent une chose, c'est qu'en sport, il y a un classement, il y a un premier, il y a un dernier. C'est comme ça. Et oui. Troyes, on a fait la mère expérience souvent. Troyes fait souvent des ascenseurs, remonte, redescend. C'est comme ça.
Là, les Lyonnais, à qui convoquent leur club au début de saison.
C'est juste insupportable. Voilà. Insupportable de devoir se justifier devant les supporters. Exactement. Insupportable.
Et aujourd'hui, ceux qui ont jeté les fumigènes, on doit être capable, soit ils font le ménage entre eux, mais ils ne le feront jamais, on doit être capable de les identifier, et c'est fini. Ils ne sont plus dans
oui,
un
mais
stade.
Mais il n'y a pas de sanctions, parce qu'il n'y a pas d'interaction
entre les pouvoirs publics. Oui, mais là, maintenant, c'est une terme de sécurité. Oui, voilà, mais c'est un vrai problème. Et les sanctions doivent être individuelles, privées, un huis clos, un club, une équipe de ses supporters, de son stade, c'est n'importe quoi. Mais ceux qui ont jeté des fumigènes, ceux... Bon, moi, c'est terminé. Ils sont plus dans un stade.
Regarde ce qui s'est passé avec Nantes, hein. Ouais. Cette saison. Voilà. Nantes a joué à huis clos, des matchs décisifs pour le maintien.
C'est toujours quand le football.
Quand on est abonné, qu'on paye sa place à l'année dans un stade et que son stade est suspendu un match ou deux et on joue à huis clos, est-ce que vous pensez qu'on rembourse aux abonnés les deux matchs qu'ils vont finalement voir à la télé? Jamais de la vie. Donc, dans un stade, il y a plusieurs typologies, entre guillemets, pardon de ce terme, de clients. Et encore une fois, je défends de manière extrêmement forte ce que sont les ultras, les supporters, enfin l'ADN,
Cyril,
c'est très important, mais ce ne sont pas les seuls.
C'est toujours des minorités agissantes, c'est 5 à 10 personnes qui conditionnent les 6000 supporters des gradins derrière les buts.
Allez, troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Didier Deschamps qui pourra emmener jusqu'à 26 joueurs à l'Euro. On s'en fout, pas. Cyril Linette.
Enfin, on s'en fout.
Enfin,
ou pas.
Ouais,
c'est bien, tant mieux pour Didier, mais bon.
Ouais. Bah, ça soulève quelque chose quand même. Mais bon, vous avez le droit de me dire qu'on passe à autre chose. Hein. Julien Bennett, on passe à autre chose.
Ouais, Pascal, elle va.
Personnel, merci. Pascal.
Ouais, moi je m'en fous pas, j'ai un truc
okay,
à dire.
Ok, Christophe.
Je m'en fous.
Ok. Fais la tête en plus, Christophe. Le comité exécutif de l'UEFA.
Je parle en fait.
A tranché hier.
Mais
je te donne l'information.
Ah, pardon.
Le comité exécutif de l'UEFA a tranché hier sur le nombre de joueurs que chaque sélection pourra prendre dans sa liste pour l'Euro. Et chaque sélection devra prendre un minimum de 23 joueurs, mais peut aller jusqu'à 26 joueurs. Tous les joueurs pourront figurer sur la feuille de match et s'asseoir. C'est inédit sur le banc de touche. Petit détail, la capacité des bancs ne sera pas augmentée. Mais chaque sélection doit faire de la place, mais aucun joueur ne sera en tribune. Rappelons tout de même, et c'est l'information importante, que Didier Deschamps n'était pas favorable à l'idée de cette liste élargie, mais il a déclaré via nos confrères de l'AFP il y a quelques jours, je ne vais pas non plus faire le malin et prendre 23 joueurs pour ensuite me retrouver en difficulté parce que je n'en aurais pas pris assez. Pascal Dufraz.
Je crois qu'il était pas favorable parce que il subodorait que des joueurs devaient rester en tribune.
Exactement.
Et il est satisfait parce que tous ces joueurs vont pouvoir être sur le banc. Maintenant, comme tu l'as souligné, c'est quoi faire de la place? Ils vont se mettre les uns sur les autres. Comment ils vont s'asseoir?
Ça marche
sur les
par
genoux.
Affinité, voilà. On peut s'asseoir sur les genoux d'un partenaire.
La subtilité de faire de la place. Le même banc, il n'y aura pas de rajout de banc, mais il faudra faire de la place. On vire le docteur, je sais pas, on vire l'adjoint.
Oui, ça c'est
quoi le truc? Je pige pas là.
Ah, pareil, on pige pas non plus, mais je voulais quand même que vous glissiez cette information. Et merci. Didier Deschamps était également contre, parce que pour lui, s'entraîner, et là tu nous diras peut-être, mais s'entraîner à 26, bah, c'était pas évident et c'était mieux de le faire à 23.
Surtout quand tu fais des oppositions, donc des oppositions c'est 10 joueurs de champ, 2 gardiens, donc ça fait que 22, t'es obligé d'en laisser 4 sur le côté un temps certain. Et puis aussi, je pense, je ne sais pas s'il l'a souligné, mais c'est aussi pour l'ambiance. Parce que quand on met 3 de plus, tu vas systématiquement faire 3 mécontents de plus. Parce qu'il y a 3 joueurs qui vont peu jouer ou pas jouer du tout.
Allez, on passe à autre chose, un autre registre. Dans quelques instants, je vais faire appel à vos souvenirs, à votre émotion, avec cette règle du but à l'extérieur, supprimée depuis 3 ans maintenant. Le temps file à une allure, c'est dingue. Êtes-vous nostalgique? Est-ce que ça a tué l'intérêt de ces matchs aller-retour? Cette émotion, ce suspense, ça tout de suite sur RMC. On en débat avec vigueur. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.